Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris pour La Relève, votre quinzomadaire radiophonique consacré aux premières fois et aux nouveaux récits. Ce soir, on va parler d'administration et de fraternité. Mes invités sont agents de l'État et dessinateurs. Et Pablo est impatient parce qu'avant de commencer, je voulais vous demander si vous aviez, vous, un journal des choses que vous ne connaissez pas encore. Tel est le cas de Vera, 10 ans, une petite fille vivant à New York dans un futur proche qui ressemble furieusement à notre présent avec son gouvernement antidémocratique et ses IA omniprésentes. Dans son journal, elle note tous les mots et expressions qu'elle ne comprend pas encore vraiment. La mère biologique de Vera est une américano-coréenne dont elle sait finalement peu de choses. Elle grandit alors avec son père Igor, un émigré russe qui s'est remis en couple avec Anne, une vraie américaine si j'ose dire. Vera a un petit frère, Dylan, avec qui elle ne s'entend pas très bien. Elle va dans une école pour haut, très haut potentiel, où elle corrige ses professeurs de mathématiques quand ils font des erreurs, ou s'inquiète auprès du directeur du respect des normes de sécurité, qu'elle semble parfois beaucoup mieux connaître que lui. Elle essaie aussi d'avoir des amis, mais ne fait pas partie des élèves populaires et ne réussit qu'à récupérer le surnom peu amical de l'experte. Alors Vera joue aux échecs avec son IA qui aspie quand elle rentre à la maison. Et puis heureusement, il y a tante Cécile, une amie de sa mère qui essaie de lui apprendre à se débrouiller au milieu de l'école. Et puis aussi, il y a un concours de rhétorique qu'elle doit préparer autour d'un projet de loi, un projet de loi disputé car il réduit les libertés des Américains et grâce auquel elle va pouvoir se rapprocher enfin de Yumi, une fille de diplomate nippon. Avec elle, elle va se lancer dans une quête de sa mère américano-coréenne. J'avais lu il y a très longtemps les premiers romans de Gary Steingart et j'en avais gardé un souvenir de trop de blagues, trop de truculence, trop. Un livre américain. Avec Vera dans son monde, il trouve un équilibre parfait, je dirais que l'auteur, qui lui-même est un émigré russe, écrit son grand roman américain, comme on dit, en se plaçant à la hauteur d'une petite fille qui observe, qui comprend partiellement ce qui se passe autour d'elle, mais reste fondamentalement et heureusement une petite fille. C'est un roman généreux qui donne une chance à tous les personnages, même à l'insupportable gosse du riche de l'école qui aura finalement un rôle clé. La construction est remarquable, tout s'emboîtant au final dans un éloge de ce melting pot. J'écris à dessin parce qu'à la radio on ne voit pas ce que j'écris, P-O-T-E-S, ce melting pot, qui était et que seront peut-être encore un jour les États-Unis. Voilà, ça s'appelle Vera dans son monde. Normalement, il y avait une musique en fond. C'était signé Gary Steingart. C'est traduit par Stéphane Rock et c'est paru aux éditions de l'Olivier. Super, on a sauvé la virgule. Bonsoir Cléo.
Bonsoir.
Bonsoir Cocopello.
Bonsoir.
Alors vous êtes ici pour vous présenter pendant le générique. J'ai repris les mentions de votre éditeur, hein, agent de l'État et dessinateur de presse. Vous co-signez tous les deux le ministère des Affaires complexes, sous-titré « Chronique d'une gestion de crise au cœur de l'État » et c'est publié chez les Arènes BD. La crise dont il est question ici, c'est la crise des migrants des années 10. Et oui, ça a déjà presque 15 ans. Et Cléo, vous en êtes à la fois la scénariste et un personnage de ce récit qui est en partie autobiographique ?
Oui.
Disons un peu plus. Évidemment, c'est
ma première, radio, donc il faut être indulgent.
Vous avez vu hein, déjà.
Et indulgente. Oui, totalement. C'est évidemment autobiographique. Ça relate mes 5 premières années professionnelles, donc dans une cellule interministérielle. Mais c'est pas seulement sur moi. C'est aussi sur mes protagonistes, les autres camarades de classe de Cléo, qui sont Aurélien, Thierry et Marc-Antoine. J'avais vraiment envie de faire un espèce d'une histoire un peu chorale autour de 4 personnages qui se rencontrent dans les coulisses d'une administration. Et donc, on suit ces 4 personnages et pas seulement Cléo.
Et vous y retrouvez comment, vous, dans ce service ?
Je m'y retrouve dans quel sens ? Je suis un peu perdue.
Vous êtes Justement,
je suis complètement novice. Moi, j'ai fait des études en sciences politiques. Et donc, j'avais plutôt un parcours donc, complètement universitaire. Et c'est mon premier boulot. J'ai eu la chance d'intégrer. Pour moi, c'était un peu le Saint Graal. J'arrivais dans une cellule interministérielle chapeautée par le Premier ministre. C'était un peu dingue. J'en parlais tout autour de moi. Et je me retrouve quand même dans un endroit un peu codifié avec de nombreux fonctionnaires, mais quand même ce qu'on appelle des contractuels, donc c'est encore ce que je suis. Ce sont des gens qui n'ont pas passé le Saint Graal du concours administratif et qui n'ont pas donc qui font pas partie d'un corps.
On va le dire tout de suite, hein, vous avez un pseudo parce que vous avez un devoir de réserve.
Oui, totalement. Et puis c'est aussi pour préserver mon anonymat et mon identité.
Très bien. Vous, Cocopello, vous avez un petit point commun tous les deux, si j'ose, c'est que vous avez fait des études de cinéma et vous vous êtes retrouvé un peu par hasard à faire du dessin de presse sur la politique. La politique, c'était pas forcément le terrain sur lequel...
Alors attention, parce que durant mes études de cinéma, durant toute ma scolarité...
Je prends des risques à l'antenne aujourd'hui.
C'est ça. Je caricaturais beaucoup mes profs et je voulais faire de la bande dessinée depuis très longtemps. Et j'étais persuadé de ne jamais pouvoir en vivre, soit parce que j'étais pas très bon, soit parce que le milieu de la bande dessinée est un milieu très difficile. Et d'ailleurs, des auteurs en ont parlé lors du dernier Salon du Livre de Paris. Mais je suis tombé dans la politique un petit peu par hasard. D'abord en suivant une première équipe de militants en me disant bon bah voilà, je vais aller voir la politique un peu de l'intérieur. Effectivement, comme Cléo, j'étais totalement novice. Et ensuite, bah voilà, j'ai poursuivi mon cheminement en infiltrant d'autres équipes de campagne, l'Assemblée nationale avec Palais Bourbon, les institutions européennes. Et puis là, aujourd'hui, je suis sur un projet autour des affaires étrangères et de la diplomatie. Donc vous voyez, j'augmente à chaque fois.
C'est pas intimidant de s'attaquer aux affaires étrangères, sachant qu'il y a eu la BD qui est d'Orsay ?
Si, c'est très intimidant au départ, mais je vais raconter d'autres coulisses et surtout un récit totalement vrai où je vais citer tous les noms des personnes. Voilà.
Et vous vous rencontrez comment, enfin, sans être indiscret, tous les deux ?
Bah, on se rencontre via les arènes, via l'éditrice, du coup Hélène de Virieux, qui, bah, tu pourras le raconter aussi, je pense. Vous avez cherché plusieurs dessinateurs, il fallait trouver quelqu'un qui avait un ton... à peu près juste, en tout cas, dans ce que tu voulais raconter. Il y avait des choses qui n'allaient pas, peut-être, avec les précédents. Et moi, ils m'ont contacté parce que j'avais cette expertise bande dessinée politique. En tout cas, je sais à quoi ressemble un ministère de l'Intérieur. Donc, quand je me suis mis à travailler avec Léo sur les planches, bah, je savais à peu près comment dessiner.
Ouais, vous n'y étiez pas, ce qu'on voit. Non.
Moi, je n'y étais pas. Voilà. Moi, je n'y étais pas, mais je pouvais très bien imaginer l'ambiance dans les ministères parce que je commence à les côtoyer un petit peu.
Et vous, de votre côté, vous avez tout de suite su que vous vouliez écrire. Alors, je vous montre du doigt ce qui est débile à la radio. Surtout, je me tourne vers vous en me disant que tout le monde sait que maintenant, je parle à Cléo. Donc, pardon Cléo. Vous saviez que vous vouliez faire une bande dessinée ou vous avez eu l'idée d'écrire un roman, d'écrire un essai, peut-être d'écrire un pamphlet sur ce que vous aviez vécu ?
Alors, pas du tout. Je pense que déjà, c'est un projet qui s'est un peu imposé à moi. J'avais une manie un peu bizarre.
Je pense qu'on en a tous,
mais que je partageais avec un de mes compatriotes, qui est du coup un des personnages de la bande dessinée, où en fait j'écrivais tout ce que je voyais. J'avais un peu cette conscience que je vivais un truc un peu particulier dans un
genre
contexte...
Genre un rapport d'étonnement pour vous-même ?
Bah, pour moi-même, en fait, c'était très personnel. J'ai un peu une manie sur les archives. J'avais envie en fait de conserver une sorte de trace de ce que je voyais. Voilà, il y avait les médias qui parlaient de la crise migratoire, il y avait les politiques qui faisaient des discours, quels qu'ils soient, et puis il y avait moi avec mes protagonistes dans les couloirs administratifs. Et je me rendais compte que c'était une autre réalité et qu'on voyait des choses assez dingues. Mais c'était juste pour moi au départ. Et puis c'est quand, en accumulant des dizaines et des dizaines de carnets, c'est-à-dire cette bande dessinée, c'est à peu près 50 carnets de toutes les couleurs. Et la BD s'est un peu imposée à moi parce que je me suis dit que c'était un joli médium pour faire de la pédagogie. Parce que c'est pas un pamphlet que je fais, c'est plutôt de la pédagogie sur ce que c'est les entrailles de l'État et comment on essaye de résoudre une situation qui est ô combien complexe.
Alors moi je repars de ce que vous dites. Quand on va voir des éditeurs et qu'on leur dit « je veux faire une BD pour expliquer ce qu'est le fonctionnement de l'État », ils ne partent pas tous en courant.
C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Après, moi, je pense que j'ai eu quand même de la chance parce que je n'ai pas rencontré grand monde. En plus, il faut savoir, moi, je suis complètement novice, je ne connais personne. Donc, voilà,
je vous ai demandé, vous aviez fait quoi comme étude, vous ?
De sciences politiques. Je savais écrire, entre guillemets, en plus dans mon poste et dans mes postes actuels, c'est plutôt moi qui fais les discours pour les directeurs de cabinet, pour les ministres, mais voilà, j'avais pas fait. Si j'avais fait peut-être une spé cinéma au lycée, donc voilà. Peut-être que j'avais ce goût pour le scénario, mais voilà, j'avais pas du tout ça en tête. Et je ne sais plus quelle était la question.
Voilà, alors, faut pas me demander, moi.
C'est pour ça. Non, c'est vrai que j'ai rencontré 2-3 maisons d'édition qui étaient quand même assez frileuses. Elles étaient frileuses. Immigration plus administration, ça fait peur. Et c'est vrai que les arènes, en fait, je leur ai envoyé mon book, qui était quand même un book de 25 pages, assez écrit, avec déjà des trucs un peu crobardés, pour leur donner un peu l'idée de l'humour que je voulais faire transparaître. Et ils ont dit oui très vite. En fait, j'étais hyper étonnée. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je pense que c'était une prise de risque pour eux. Et puis après, s'en est suivi la rencontre avec Antoine. Mais il faut dire que c'est un projet très long. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré les arènes en 2022 et la BD, elle sort maintenant en 2026.
C'est 4 ans de travail.
Donc, je n'avais pas fait de scénario encore. Hein. Moi, j'avais juste un book.
Mais justement, c'est un scénario, vous l'écrivez toute seule ou vous l'écrivez à deux ou vous intervenez, vous Antoine Cocobello, je ne sais pas comment vous appelez. Parce que je savais que j'allais vous appeler Bello.
Comme vous voulez, on est entre nous, Christophe, là, tout va bien. Non, c'est un petit peu... ça dépend vraiment des bandes dessinées. Là, c'est vrai que Cléo, comme c'est toi qui avais l'expérience connaissances de terrain, bah, du coup, j'ai beaucoup laissé, bah, surtout sur les différents dialogues, comment s'exprime chaque personnage, etc. Moi, je suis arrivé un petit peu en bout de course en disant, bon, bah, là, on va peut-être essayer de réduire tel passage. Là, ce serait bien de développer là-dessus pour dynamiser un peu plus le récit et ajouter les toutes petites touche d'huile au rouage qui était déjà présent en vérité. Et c'est vrai que, en fait, vous vous disiez que...
C'est bien, vous me citez, c'est très bien.
Ouais, je vous cite. Non, mais voilà, j'enregistre tout et je suis tout. Non, mais que la bande dessinée, en tout cas, sur des ministères et tout ça, peut paraître un petit peu aride et autre. Mais comme c'est un récit du réel, ça fonctionne assez bien auprès du public. En tout cas, le public a envie de savoir ce qui se passe derrière les salons dorés de la République. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Et les éditeurs sont assez friands de ces histoires-là. Et donc ça m'étonne pas trop que les arènes aient dit oui assez rapidement en se disant bon bah ouais, en fait ça va être un sujet intéressant, ça va intéresser un certain type de public aussi, et on y va. Et le texte était déjà assez bien construit parce que moi je reçois pas mal de textes d'éditeurs aussi qui me disent on va faire une super bande dessinée sur tel sujet, le budget de l'État ou des trucs comme ça un petit peu pointus, en disant moi Coco Pello, toi t'as l'habitude, tu vas dépoussiérer tout ça et tu vas faire un truc super autour de ça. Et parfois, bah non, c'est juste pas possible. Et là, je reçois le texte de Cléo et je me dis, bah non, mais il y a déjà pas mal de choses. C'est déjà très bien écrit, c'est drôle, c'est instructif, etc. On apprend plein de choses. Et c'est sur un sujet, en plus, l'intégration, l'immigration, qui peut être vraiment casse-gueule. Mais là, on arrive à s'en tirer sur une ligne de crête plutôt pas mal. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, bon, bah, allez, c'est bon, on y va.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans le projet ? Vous venez un peu de répondre, mais vous dites, vous en savez beaucoup. Là, c'est la qualité du projet, c'est son propos, c'est...
Alors d'abord, ça a été la qualité du projet, comment elle a été développée. Le fait que ce soit une enquête de terrain. Moi, j'aime beaucoup les récits du réel. J'aime beaucoup savoir ce qui se passe derrière les hauts murs des ministères, justement, dans les salon doré de la République, avec les ministres, comment ça se passe. Et vraiment, j'ai ce côté petite souris qui retransparaît dans mes albums, et là, que j'ai retrouvé à travers Cléo. Et c'est assez marrant parce que quand...
Vous avez aussi des carnets, vous notez tout, vous
j'ai plein de carnets, en fait.
Voilà. Non, mais c'est ça, méthode, sans le savoir.
On se ressemble, en fait, énormément là-dessus. C'est que moi, j'ai commencé en faisant plein de petits carnets où je notais toutes les conneries que je pouvais entendre justement tout autour. Et quand Cléo m'a dit bah, moi, je fais la même chose, je me suis dit ah, super, bah, voilà, on y va. Et en plus de ça, bah, le projet, bon, bah, voilà, il est bien écrit, bien ficelé, un récit du réel. Ça parle d'intégration et d'immigration autrement que dans les médias et de façon, pour une fois, intelligente et intelligible. Et je trouve que ça, c'est quand même un beau tour de force. Voilà.
Lucille, ici.
Non, et pour ceux qui voudraient s'essayer au scénario, en gros, moi, ça m'a mis un an. J'ai mis un an d'écriture, c'était le projet avec la maison d'édition, et c'est à peu près 250 pages Word. Et c'est long. Et fastidieux, il y avait 33
chapitres. C'est quoi
scénario,
si vous décrivez les cases, une par une?
Moi, je me suis prise pour une scénariste de cinéma. C'est-à-dire que parfois, j'étais l'ombre projetée. Je ne sais pas, c'était un mélange de plein de choses. Peut-être que c'était un peu trop, parfois, descriptif pour te donner la latitude, toi, dans le dessin. Mais en fait, on s'en est plutôt bien sortis. On a sabré des choses, volontairement. C'est normal, pour qu'il y ait plus de rythme. Mais c'est vrai qu'aussi, dans les discours, dans les dialogues, c'était quand même déjà très construit.
Est-ce qu'à l'inverse, à l'inverse, vous, comment vous l'avez choisi, lui? Lui nous a dit pourquoi il avait aimé votre texte, mais vous, pourquoi vous avez aimé son dessin? Vous le connaissiez?
Moi, j'avais déjà en ligne de mire les travaux de Coco Pello. Et surtout sur l'Assemblée nationale. J'aimais beaucoup son trait. Moi, je cherchais quand même un trait, on parle de ligne de crête, mais qui est à la limite de la caricature, sans trop l'être non plus. Parce que vraiment, j'avais besoin d'avoir des personnages, il y en a 6 à peu près, et j'avais envie qu'ils soient drôles. Et donc pour ça, il faut quand même réussir à avoir un trait particulier. Et on a rencontré plusieurs dessinateurs et dessinatrices. Et c'est vrai que moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'il y avait un regard toujours à chaque fois un peu manichéen, un peu binaire. C'est-à-dire, ah bah oui, les administratifs, c'est les méchants, les réfugiés, c'est les gentils, ou à l'inverse. Et ce n'était pas du tout ça, le projet. Le projet, c'était de dire, il y a un sujet qui est complexe. Et tous les acteurs qui gravitent autour de ce projet, ils ont tous leur part d'ombre, leur part de complexité.
Ils veulent tous bien faire, l'air de rien.
Et oui.
C'est ça qu'on découvre. Non, mais
oui,
c'est ce qu'on découvre
vraiment.
En vous lisant.
Oui.
On voit qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Alors, tout le monde ne veut pas prendre le même chemin pour y arriver. Pardon. Mais par exemple, est-ce que tout est vrai? Je me suis demandé, vous n'avez rien inventé? Le brief le matin, 8h du matin, avec le directeur d'administration centrale en jogging?
Alors, j'ai tiré certains traits. pour justement grossir un peu l'humour. Mais véritablement, nous, on rigole avec Antoine parce que...
Si vous savez ce que vous avez inventé et que j'ai pas vu.
Je pense qu'il y a 2% d'invention pour essayer de justement créer de la tension, entre guillemets, essayer de tirer le fil de l'humour. Mais c'était drôle parce qu'on a fait le lancement de la bande dessinée il y a pas longtemps et donc il y avait des personnes qui sont dans la BD qui existent vraiment, dont un qui était présent, et j'ai jamais donné de photo à Antoine pour qu'il représente réellement les traits des personnages, et il y en a un, trait pour trait c'est le même. Et donc il y a quand même 98% de vrai, et même dans les personnages en tant que tels, il y a quelque chose de très réel. Quoi.
Le gars qui profite d'un des dispositifs que met en place à ce moment-là le ministère pour rénover sa piniche, ouais,
c'est vrai. Oui,
ça,
complètement.
Je vous raconter
l'anecdote. Oui, mais c'est pas la seule. Hein. Oui, non, je pense que c'est.
J'en choisis vous deux pour.
Oui, bien sûr. Non, c'est totalement vrai, et c'est d'ailleurs c'était très perturbant parce que ça vient encore une fois d'une bonne intention de se dire c'est la crise, il y a des campements à Stalingrad, à Calais, moi j'ai une péniche, elle est en mauvais état, mais il y a un toit sur ma péniche et on peut accueillir des gens. Avec quand même un petit bémol, c'est que je préférais avoir des familles avec des enfants plutôt que des colocataires de 18 ans. Il y a déjà un biais, mais il arrive comme ça, il se présente à nous, ce qui était quand même assez rare dans l'administration, que quelqu'un toque à la porte, et puis il nous présente du coup le projet de sa péniche, mais avec vraiment les plans d'architectes et autres. Et nous, on était complètement, on était assez mal à l'aise parce qu'on lui disait, mais c'est beau comme projet, mais déjà ça coûte cher de rénover, et nous on a besoin d'avoir des endroits, des appartements en location, des centres d'hébergement, des vrais murs pour accueillir des réfugiés dignement. Et c'est mal passé parce qu'ils considéraient qu'il faut faire feu de tout bois, et sauf que voilà, il faut expliquer, et en plus surtout dans ces moments-là on n'a pas le temps parfois d'avoir les bons mots quand on est administratif pour dire bah oui mais non mais cette solution c'est pas la bonne, et puis du coup on se fait évidemment retoquer. Donc oui, ça fait partie des anecdotes.
Vous dites très bien, il faut expliquer. Je m'aperçois que je n'ai pas du tout expliqué ce qu'était la crise des migrants des années 2012.
Ouais,
est-ce que je vous laisse faire,
vous
connaissez mieux le sujet que moi.
Oui, c'est un sujet...
quand même donner le contexte, j'ai oublié.
Et
ça a quand même 15 ans maintenant. Donc,
Oui, mais je pense que ça a donné lieu un peu à une introspection collective, puisque en fait, ce qu'on disait, le sujet migratoire, c'est un sujet intemporel. Parce que depuis l'écriture de la BD, il y a l'Ukraine, il y a l'Iran, il y a Gaza. Donc en fait, les flux migratoires, c'est quelque chose qui va venir infuser nos sociétés, quoi qu'il arrive. Mais 2012-2013, c'est la crise syrienne. Donc, c'est les exactions du régime de Bachar al-Assad à l'égard de la société civile. Et donc, ce sont des centaines, des milliers de réfugiés qui décident de partir dans une route de l'exil et qui se retrouvent aux abords des côtes européennes. Il n'y a pas que les réfugiés syriens, il y a aussi des réfugiés issus de l'Afrique subsaharienne, de l'Afghanistan. Mais à l'époque, il y a quand même un afflux massif comme ça de personnes qui arrivent notamment en Grèce et en Italie. Et en France, au début, c'est assez limité par rapport à d'autres pays comme la Grèce et l'Italie. Mais voilà, il y a des images médiatiques très très fortes et on a cette impression d'urgence et voilà, on doit se débrouiller avec les moyens du bord, que ce soit au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France. Donc ça, c'est le contexte d'urgence.
Vous, Coco Pelo, vous en souvenez de cette période-là? Vous en gardiez quel souvenir avant de vous lancer dans BD?
C'était les images terribles qu'on a pu tous voir à la télévision, à la radio, etc. Mais moi, ce qui m'a marqué, en plus en relisant ça, parce qu'on a peut-être une impression peut-être d'une sorte d'oubli en fait collectif, c'est les mots qui étaient assez beaux prononcés par nos politiques, même Manuel Valls qui est cité dans la bande dessinée et qui dit en gros dans les grandes lignes, oui il faut accueillir, c'est le devoir de la France, etc. On est très humaniste et tout ça, et on voit en fait malheureusement le chemin parcouru par nos politiques aujourd'hui, où on entend plus du tout ça à la télévision, à la radio, et où ça devient maintenant très compliqué de parler d'intégration et d'immigration, alors qu'avant on en parlait et on avait cette volonté en tout cas d'accueillir, d'intégrer bien et de sauver quoi.
C'était très beau, enfin moi c'est en tout cas c'est marrant parce que du coup quand j'ai eu cette idée de d'écrire, j'avais envie de montrer quand même la spontanéité, la générosité en France qui a existé à ce moment-là, parce que je pense qu'il y a eu un traumatisme collectif. Je parle souvent de ce petit Aylan Kurdi qui est retrouvé sur les plages turques, qui a 3 ans et qui est retrouvé noyé.
Cette photo
c'est une photo qui voilà, mais c'est une photo qui fait écho à tout ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, il y a 10 ans, on n'avait pas ce même rapport visuel aux images, peut-être. En tout cas, il y a eu un traumatisme collectif et il y avait des maires, il y avait, enfin, maires, M-A-I-R-E-S, il y avait des associations, des retraités qui ouvraient leurs portes. Enfin, c'était quand même assez dingue. Il fallait maîtriser et réguler aussi.
Oui, il y a
c'était
des moments,
ça le
moi,
rôle
il...
de l'État aussi, d'essayer de trouver, de maîtriser aussi cette société civile qui s'empare du sujet avec aussi une certaine maladresse. Mais voilà, il y avait cette émulsion collective très belle.
On écoute un peu de musique.
J'évolue à l'aveugle, à tâtons dans le noir. Je suis loin d'être seul. Ça se sent, il est tard. Quand plutôt je m'égare, il se forme un sillon. Allongé dans le creux, ébloui par les phares, des lumières qui défilent, la raison se fait rare. La nuit, on s'extasie.
Et voilà, c'était Von Feld, ça s'appelle La Nuit, c'est avec l'ESCO. Et on est toujours à la relève avec Cléo et Coco Pello pour le ministère des Affaires Complexes, une bande dessinée parue aux Arènes BD, sous-titrée Chronique d'une gestion de crise au cœur de l'État. Je vois que le temps passe très vite, ça file, et on va essayer quand même encore de parler de votre formidable travail à tous les deux. Alors, il y a des choses qui s'expliquent par le texte, par ce que vous avez écrit, vous, par vos petits carnets, puis il y a des choses qui s'expliquent par le dessin. Alors, par exemple, Moi, j'ai beaucoup aimé la forme que vous avez donnée à ce ministère, qui est une espèce de tour qui n'existe pas. Parce que j'ai essayé de regarder sur vos dessins, on dirait que c'est un peu là où il y a le CNIT. Je ne sais même plus comment ça s'appelle maintenant, ça ne s'appelle plus le CNIT. Ce bâtiment avec cette voûte en béton.
Vous êtes baladé dans Google Street,
quasiment, parce que je me suis dit, je ne l'ai jamais vu, cette tour à la Défense. Et quand on la voit de nuit, on a presque l'impression que c'est un robot, la toute-puissance de l'État. Alors ça, c'est vous, Coco Pello, qui avez eu cette idée de créer ce personnage, ce ministère qui lui-même est un personnage, du coup, qui devient un ministère par le jeu des fenêtres allumées. C'est...
Alors d'abord, il y avait donc Cléo voulait quelque chose de très rectiligne, parce qu'effectivement, tout très, très horizontal, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait différents étages et que tout en haut, il y ait le DG, et puis on descend dans les étages avec ce jeu-là, et les personnages d'ailleurs sont rétrogradés à différents étages et mis dans différentes cases, etc., selon le sujet qui est le plus important pour le ministère ou non. Donc en fait, et ça c'est véridique, dès que d'ailleurs il y a des remaniements ministériels, ce qui arrive tout le temps en ce moment, vous avez des armées de fonctionnaires avec différents cartons qui n'arrêtent pas de bouger d'un étage à l'autre selon les sujets qui sont les plus importants possibles.
Il y a même un moment où on vient rajouter un i sur la façade du ministère des Affaires Complexes,
voilà,
parce qu'elle devient
changer.
Insoluble, je crois.
Alors c'est le MAC, ministère des Affaires Complexes, qui devient, alors moi le MACI, le MACI, le ministère des Affaires Complexes, c'est insoluble.
Ouais. Et puis et du coup Cléo, donc moi j'ai suivi les indications de Cléo qui m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien un truc un peu brutaliste et autre. Regarde, mon compagnon m'a fait des premières esquisses, mon compagnon qui est architecte, et en fait j'ai tout de suite adhéré. Je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est du verre, de l'acier, et moi ça me faisait penser un petit peu au bâtiment qu'on peut retrouver dans le quartier européen à Bruxelles, où pareil, c'est une administration assez compliquée, où on a l'impression qu'il y a des fonctionnaires qui courent partout avec des longs couloirs, et en fait c'est un petit peu ça, parce que dans les dires de Cléo, je me disais, mais oui, il faut que je m'inspire de ça aussi. Donc j'ai pris un peu mon expérience que j'avais eu à Bruxelles, j'ai pris les premiers plans du compagnon de Cléo et je me suis dit, allez, on mixe tout ça, et voilà, ça fait le Mac.
Il y a des moments où vous êtes retournés ensemble sur le terrain ?
Non, on n'a pas eu le temps.
Non,
ça aurait été une très belle idée. Mais non, mais c'est vrai que, en fait, ça a été. Bon, entre temps, on a eu deux bébés, un chacun, voilà. Donc on a eu une vie extrêmement intense. Mais non, on aurait aimé. Après, moi, je suis revenue sur la dalle de la Défense avec beaucoup d'émotion pour justement déambuler dans cet endroit dans lequel j'ai été pendant longtemps, que j'appréciais sans apprécier aussi, parce que c'est un drôle d'endroit, la Défense. Mais j'ai pas eu le temps ni la possibilité de retourner dans tous les patelins de France et de Navarre dans lesquels des familles de réfugiés ont été accueillis et relogés.
Alors dans la BD, vous insérez aussi des scènes de la vie quotidienne de vous et de Cléo et puis de cette bande d'amis. Notamment, il y a ses fêtes, ses rencontres avec ses amis qui lui font des reproches. C'est important que la BD contienne aussi la critique de l'action de l'État pour vous.
Oui, alors en plus c'était plutôt une demande de l'éditrice, parce que moi je suis un peu timide, j'avais pas trop envie de me mettre en avant, je voulais vraiment qu'on soit plutôt les quatre mousquetaires qui arrivent dans l'administration, mais bon, il fallait quand même personnifier plus et puis respirer aussi, puis finalement en fait ça rend bien. Et c'est vrai que j'avais envie finalement de donner à voir le paradoxe dans lequel moi je me retrouvais avec certains de mes amis, mais aussi dans mes activités associatives, parce que je faisais beaucoup de maraudes, j'étais quand même assez investie sur le terrain en parallèle, et c'est vrai qu'on me disait, ah, tu bosses pour l'État. Et alors que moi, j'ai envie de dire, bah ouais, mais ça peut être bien aussi, en fait. Et j'ai l'impression que je me dépatouillais avec des discours qui étaient assez binaires aussi de la part de la société civile ou de mes amis qui me disaient, ah, non, mais de toute façon, tu sers à rien. De toute façon, tu bosses pour tel ou tel ministre ou président. Et je pense que c'était aussi un des messages que j'avais envie de donner à voir dans la bande dessinée, c'était que l'administration, c'est particulier. C'est pas forcément politique. C'est aussi un contre-pouvoir, c'est l'action publique dans le temps long, c'est autre chose que le gouvernement. Donc voilà.
Allez-y. Ah non, pardon, je suis libre. Non. Alors moi, je trouve que votre livre devrait être distribué partout, et notamment pour les étudiants qui veulent travailler dans la politique et qui veulent faire des études de sciences politiques. Parce que vous montrez bien la complexité sans jamais tomber dans le jugement. Et je ne sais pas si ça a été difficile d'arriver à ça et si c'était quelque chose que vous aviez en commun. On pourrait tomber vite dans une attaque facile. Et vous, ce que vous racontez, finalement, c'est des gens de bonne volonté qui essaient de faire rentrer des ronds dans des carrés comme ils peuvent. Vous le dites à un moment, hein, s'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de politique. Et en même temps, on voit bien que ces chiffres, ils doivent regrouper des situations qui n'ont rien à voir.
Totalement. Non, mais en fait, moi, c'est vraiment le projet. Moi, c'est vraiment une conviction très personnelle de me dire que l'action publique, il faut la démythifier. L'opacité de l'action publique, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et d'expliquer, en fait, qu'à un sujet donné, à savoir l'intégration, mais c'est la même chose pour le changement climatique, pour la crise sur la pauvreté ou le logement, c'est complexe. Et on ne peut pas avoir une solution pour un problème donné. Et c'est pour ça aussi que ça impose du temps long et qu'on ne peut pas avoir la solution toute faite et bien faite.
Et là, on voit bien à un moment l'espèce de collision qu'il y a entre l'administration et le politique.
Totalement.
Qui, lui, le politique, veut des résultats très rapides. Et il y a tout un jeu pour lui donner un chiffre qui lui à la fois lui dise ça va valoir le coup parce que je crois que c'est 20 000, vous tombez sur 20 000.
Oui, oui.
Il faut que ce soit un chiffre suffisamment haut pour que ça le mobilise, mais en même temps pas trop parce que derrière on va ramer pour le faire.
Oui, c'est ça. Et déjà à l'époque c'était compliqué d'assumer. C'est la première fois qu'on assumait un chiffre en nombre de logements à mobiliser pour les réfugiés. Donc c'était particulier, c'était un courage à la fois administratif et politique. Et c'est d'ailleurs ces circulaires interministériels qui ont été mises en place donc en 2017, elles perdurent. C'est-à-dire qu'elles ont continué en 2019-2020 avec des chiffres qui baissaient progressivement à mesure aussi peut-être de l'ambition politique. Parce que quoi qu'il arrive, même si l'administration, elle signe ou elle écrit une instruction interministérielle, ce sont les ministres qui signent et qui changent les mots ou le chiffre s'ils le souhaitent.
Il y a quelque chose de très désespérant dans votre BD, je ne sais pas si vous, j'imagine que vous le savez, mais on parlait à l'instant de ces fêtes et il y a souvent, vous faites, alors je ne sais pas si c'est votre idée à vous, dessinateur Cocopello, à vous Cléo, c'est qu'il y a des moments où ils sont dans leur appartement, puis on voit à l'extérieur, il y a toujours ces tentes avec des gens qui vivent dans la rue. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je la trouve formidable parce qu'elle dit tout en images. C'est peut-être vous deux en même temps.
C'est vrai que moi, j'ai pensé à les intégrer tout au début, et en fait, c'est vrai que plus le temps avance, plus on voit aujourd'hui, il y a encore des campements dans les rues, il y a encore des personnes à la rue, à reloger, qui attendent des logements, et puis il y a d'autres publics qui sont prioritaires, et puis en fait, il y a la crise du logement aujourd'hui en France. Donc en fait, tout ça s'emboîte et tout ça est effectivement un petit peu compliqué. Les solutions, elles existent. Donc c'est ce qu'on voulait mettre aussi dans cette bande dessinée, un peu en vague d'espoir. Mais pour ça, il faut une grosse volonté politique aussi. Mais c'est vrai qu'à la fin du récit, les tentes, elles sont toujours là. Non, et malheureusement, elles vont rester.
Moi, ce que je tiens à dire, c'est que ce que je trouve, c'est que c'est élégant de ne pas le dire, de ne pas le souligner, juste de le montrer comme ça. Je ne sais pas qui est le cas, encore une fois, et puis peut-être vous deux en même temps, et puis on n'est pas là pour donner des bons points. Mais je trouve ça très pas chic, c'est pas le mot, mais élégant, il n'y a pas d'autre mot, mais vous imposez pas un discours, mais vous montrez.
L'idée, c'était que ça soit un peu un fil invisible qui mène le non, mais le lecteur ou la lectrice, c'est-à-dire qu'il y a un moment aussi dans la bande dessinée, Cléo, elle est dans le RER, et elle se retourne et elle voit quelqu'un qui mendie, et c'est la seule qui se retourne et qui regarde, et donc on voit déjà qu'elle s'interroge sur l'utilité et le sens de sa mission de service public. Donc je pense que oui, c'est... Et puis encore une fois, il y a eu quelque chose d'intellectuel très fort qui s'est construit avec Antoine, c'est qu'on a quand même toujours été sur la même longueur d'onde. Donc tu as toujours compris et puis on a avancé comme ça. Franchement, moi c'est ma première BD donc je suis obligée de te jeter. Oui. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement agréable.
Vous arrivez à la fois très bien, vous arrivez très bien tous les deux à montrer la petitesse et la grandeur de la politique. Si je vous dis ça, ça résume votre projet ?
Ouais,
ça vous va.
Oui, oui, non, c'est un peu ça.
On voit
ça,
à la fois que c'est grand et petit et que c'est humain, quoi, finalement.
C'est des grands salons dorés des ministères. Là, on apprendra tout ce qui se passe dans les grands salons dorés, à la fois dans l'administration et à la fois aussi sur le terrain, parmi les camps de réfugiés. Donc, c'est ça qui est beau dans ce MAC.
Vous allez. Alors, il faut que j'arrête de me tourner en croyant que tout le monde se sait que je vous parle à vous. Cléo, vous avez été dédicacé dans votre ministère. Vous l'avez envoyé à votre équipe,
alors,
à vos amis.
Non, mais ce qui est très drôle, c'est que pour le moment, l'idée, c'était de conserver mon anonymat parce que je souhaiterais pouvoir potentiellement un jour être fonctionnaire, parce qu'être contractuel, c'est pas évident, on est très précaire. Et donc, du coup, il faut passer des concours administratifs. Et je ne savais pas si finalement le fait de sortir cette bande dessinée, ça allait être compliqué pour moi.
Vous avez bien pu en parler un ou deux.
Non, mais ce qui est très drôle, c'est que je me suis fait démasquer, en fait. Donc, je me suis fait démasquer par certaines personnes qui m'ont dit, mais t'as pas écrit une BD. Et en fait, ce qui est très drôle aussi,
vous dessinez trop bien, c'est pour ça.
Non, je pense qu'il y a, en fait, la cellule interministérielle dans laquelle j'étais, c'est quand même une jolie maison. Et il y a quelque chose de très beau qui est aussi, d'un point de vue administratif, qui s'est créé. Et donc, quand on a fait partie de la maison, on se connaît un peu. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 3 jours, j'ai envoyé un texto au DG. Je me suis dit, c'est mieux quand même qu'il soit au courant. Et donc là, il vient de le recevoir dans ses salons dorés. Et on verra bien ce qu'il en pense. Donc j'attends avec hâte aussi sa critique.
Cocopello, on vous retrouve bientôt, donc vous, au Quai d'Orsay ?
Ouais, c'est ça. Alors, c'est une histoire, donc c'est un petit peu long. La diplomatie, c'est le temps long. Voilà, c'est ce que j'apprends. Mais non, ça, c'est un projet qui sortira chez Dargo fin 2027, voire début 2028. Je me laisse vraiment le temps d'appréhender la chose. Et puis là, je voyage un petit peu partout et je fais beaucoup de terrain. Voilà.
Vous n'allez pas vous couvrir la présidentielle, ça ne vous intéresse plus ?
Moi, je serai dans les couloirs du Quai d'Orsay pour notamment voir les ingérences étrangères à ce moment-là. Donc je raconterai tout ça vu de l'intérieur. Mais non, je laisse la présidentielle aux grands.
Bon, vous êtes modeste en plus. Merci beaucoup Cléo et Coco Pello. Je redonne le titre de votre BD, Le ministère des Affaires complexes, chronique d'une gestion de crise au cœur de l'État. Et ça a paru aux Arènes BD. Voilà, c'était La Relève, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Vous pourrez retrouver bientôt cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Passez une bonne soirée et à dans 15 jours. Au revoir.